Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle maladie rare, le syndrome hémolytique et urémique atypique, ou CHU atypique. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Éric Rondeau. Professeur Rondeau, bonjour.
Bonjour.
Professeur Rondeau, vous êtes néphrologue, professeur des universités et chef du service d'urgence néphrologique et transplantation rénale de l'hôpital Tenon à Paris. Vous êtes également membre du Centre national maladies rares sur les micro-angiopathies thrombotiques. Alors, professeur Rondeau, ma première question est très simple. Qu'est-ce que le syndrome hémolytique et urémique atypique ou CHU atypique?
Alors, cette maladie, le CHU atypique, est une maladie très rare qui se caractérise, comme son nom l'indique, par une hémolyse et par un syndrome urémique ou insuffisance rénale. Et cette hémolyse, c'est une hémolyse très particulière qui est une hémolyse mécanique avec des hématies fragmentées qu'on peut voir sur les frottis sanguins. L'insuffisance rénale aiguë est tout à fait classique et quasiment constante. Et puis sur le plan hématologique, il y a aussi une thrombopénie, donc une chute des plaquettes, sans signe de coagulation intravasculaire disséminée. Et cette association, anémie hémolytique, thrombopénie, insuffisance rénale aiguë, est la caractéristique du CHU atypique. Alors évidemment, on en rediscutera, mais le diagnostic est difficile, car un certain nombre d'autres maladies, l'ensemble des micro-angiopathies thrombotiques, peuvent aussi se manifester par cette triade, et il y a toute une démarche diagnostique qui est nécessaire, et d'où parfois aussi un certain délai dans le diagnostic précis du CHU atypique. Il faut savoir que c'est une maladie qui touche à la fois l'enfant, mais aussi l'adulte, plutôt jeune, avec chez l'enfant avant 15 ans, environ une moyenne d'âge de 2-3 ans, donc vous voyez, qui peut toucher des enfants très jeunes. Et puis, chez l'adulte, une moyenne d'âge qui est aux environs de 30 ans. Donc voilà les principales caractéristiques de cette maladie.
Et d'un point de vue physiopathologique, cette fois-ci, quel est le mécanisme de survenue d'un CHU atypique?
Alors, comme tous les syndromes hémolytiques et urémiques, le mécanisme initial correspond à une lésion de la cellule endothéliale. Et cette lésion des cellules endothéliales, surtout dans les petits vaisseaux, les capillaires, notamment les capillaires au niveau du rein, mais également au niveau du cerveau ou du cœur, ces lésions endothéliales vont faire que l'endothélium, qui naturellement est anticoagulant et profibrinolytique, donc s'oppose à la formation et à la persistance des thromboses, cet endothélium lésé ou agressé ou activé va devenir procoagulant et antifibrinolytique, de sorte que il va favoriser la formation des microthromboses et aussi leur persistance, d'où les lésions tissulaires qui vont pouvoir survenir. Et dans le cas du SHU atypique, on a pu mettre en évidence que le mécanisme principal de la lésion endothéliale était une hyperactivation de la voie alterne du complément. Cette hyperactivation de la voie alterne aboutit à la génération du complexe terminal, qu'on appelle le C5B9, ou complexe d'attaque membranaire, et qui va réaliser des véritables trous dans la cellule endothéliale et complètement modifier son phénotype, d'où les manifestations cliniques et biologiques du SHU atypique.
Et si on s'intéresse à la clinique maintenant, professeur Rondeau, quels sont les principaux symptômes évocateurs d'un CHU atypique?
Alors là, correspondant assez bien à la diffusion des lésions possibles, hein, puisque les capillaires, ils sont dans tous les organes pratiquement. On a très bien décrit, j'en ai déjà parlé, l'atteinte rénale qui va se manifester essentiellement par une insuffisance rénale aiguë et associée très souvent à une hypertension artérielle qui peut être une hypertension artérielle maligne ou en tout cas très sévère. Donc il y a tout le cortège des manifestations liées à l'insuffisance rénale aiguë. Mais ça n'est pas le seul organe touché. Ça peut également toucher le cerveau avec des manifestations à type de confusion, voire de crise convulsive. Il peut y avoir des manifestations cardiaques, qu'on a appris à mieux connaître plus récemment, avec des aspects d'ischémie localisée au niveau cardiaque. Des atteintes digestives sont possibles, notamment des pancréatites ou des colites ischémiques qui sont parfois trompeuses et qui peuvent faire penser à une origine infectieuse de la maladie, mais qui en fait est simplement liée à l'ischémie colique. Les atteintes pulmonaires peuvent se voir également, mais dans le cadre souvent d'une hypertension sévère avec insuffisance rénale, donc on a plutôt dans ces cas-là la notion d'un œdème pulmonaire. Donc vous voyez des manifestations qui sont très diffuses, prédominance rénale évidemment, mais et qui peuvent toucher d'autres organes.
Et face à ces symptômes qui sont assez larges finalement, quels sont les principaux diagnostics différentiels à écarter ?
Alors là, c'est un point essentiel hein, dans la démarche diagnostique, car en effet, comme je l'ai déjà dit, les manifestations cliniques et le trépied hémolyse mécanique, thrombopénie, insuffisance rénale peuvent se voir dans un très grand nombre de cas de microangiopathie thrombotique. Donc pour bien caractériser le CHU atypique, en fait, il faut exclure les autres causes possibles de microangiopathie, et c'est notamment exclure le purpura thrombotique thrombocytopénique avec le dosage de la DAMTS13 qui, dans ces cas-là, est effondré, alors que dans le CHU atypique, il est normal. C'est également exclure une infection par une entérobactérie pathogène qui sécrète une chigatoxine, et cette chigatoxine a une toxicité endothéliale particulière, notamment au niveau rénal, et peut réaliser un tableau de syndrome hémolytique urémique, mais en rapport cette fois-ci avec l'infection, souvent associée d'ailleurs à une diarrhée hémorragique. Et puis il y a encore un vaste chapitre de ce qu'on appelle aujourd'hui les CHU secondaires, qui peuvent se voir dans le contexte de maladies auto-immunes, ou de toxicité médicamenteuse, ou également dans les suites d'une greffe de moelle, ou enfin à l'occasion d'un cancer. Et donc, il y a une démarche diagnostique qui doit exclure ces différentes causes pour finalement assurer ou en tout cas conforter le diagnostic de CHU atypique.
Et donc au final, professeur Rondeau, comment est-ce qu'on peut confirmer le diagnostic de CHU atypique ?
Alors, comme je l'ai dit au début, il faut absolument exclure les autres diagnostics. Donc, c'est un peu un diagnostic d'exclusion. Mais aujourd'hui, on a d'autres outils à disposition qui souvent vont demander un certain délai pour avoir les résultats. C'est notamment l'exploration des différentes composants circulant de la voie alterne du complément. Donc, on va doser le C3, le C4. S'il y a un C3 bas, c'est un argument en faveur, mais il peut être normal dans plus de 50% des cas, donc c'est compliqué de baser le diagnostic uniquement dessus. On va avoir une possibilité de doser le facteur H, le facteur I, la protéine MCP à la surface des leucocytes circulants, tous des inhibiteurs importants physiologiques de la voie alterne du complément, qui, s'ils sont déficients, sont responsables de cette hyperactivation du complément et de la lyse cellulaire endothéliale. Au-delà de ça, aujourd'hui, évidemment, le diagnostic peut être posé également avec l'analyse génétique, puisqu'on va rechercher des variants génétiques sur les différents composants de la voie alterne, notamment le facteur B, le C3, avec gain de fonction, ou le facteur H, le facteur I, la protéine MCP, pour ceux qui sont avec perte de fonction. Donc c'est une démarche tout à fait codifiée, qui prend du temps, et souvent on est obligé de prendre des décisions thérapeutiques avant d'avoir l'ensemble des résultats.
Eh bien, merci mille fois, professeur Rondeau, de nous avoir éclairé sur ce syndrome hémolytique et urémique atypique. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com, où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. À très vite.